Et c'est l'heure du journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Le Premier ministre israélien reconnaît un incident tragique après la mort de 7 membres de l'ONG humanitaire World Central Kitchen dans la bande de Gaza. « Nos forces ont frappé de façon non intentionnelle des innocents », déclare Benjamin Netanyahou. Nous analyserons la situation avec Étienne Monin. Tout juste investi, le nouveau président sénégalais dit avoir entendu le profond désir de changement systémique dans son pays. Bassirou Diomaye Faye promet plus de souveraineté et une démocratie renforcée. Nous l'écouterons. Julien Bayou dit être à bout après l'annonce par Europe Écologie Les Verts d'une enquête externe suite aux accusations de violence psychologique lancées par son ex-compagne. Il quitte le parti et son groupe à l'Assemblée, explication de Sophie Delpont. Et puis à Bruxelles, une exposition célèbre le centenaire du surréalisme, l'occasion pour Hélène Combis de se pencher sur la place des femmes dans ce mouvement artistique. Ce sera le dossier de ce journal. Les condamnations pleuvent à l'encontre d'Israël depuis l'annonce de la mort de 7 humanitaires occidentaux dans la bande de Gaza. 7 collaborateurs de l'ONG World Central Kitchen ont été tués par une frappe israélienne à Deir al-Bala alors qu'ils distribuaient de la nourriture. Leur convoi était pourtant bien identifié comme un convoi humanitaire. Bonsoir Étienne Monin.
Bonsoir.
Le Premier ministre Benjamin Netanyahou reconnaît que les forces israéliennes ont frappé des innocents mais souligne que ça n'était pas intentionnel.
Oui, et comme pour bien marquer sa préoccupation, le Premier ministre israélien évoque le sujet depuis les étages du gigantesque hôpital Hadassah à Jérusalem. Benjamin Netanyahou sort d'une opération pour une hernie et il reconnaît face caméra la responsabilité de l'armée israélienne, mais pas l'intentionnalité. Il parle d'un incident tragique, d'une frappe involontaire contre des personnes innocentes. Nous vérifions ceci de manière approfondie, ajoute-t-il. Nous ferons tout notre possible pour que cela ne se reproduisent plus. Alors que cette guerre qui dure depuis presque 6 mois semblait être entrée dans une forme de routine pour les opinions publiques, cette tragédie crée un effet de choc. La France a fermement condamné. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken demande une enquête impartiale. L'ONU, l'Europe ont réagi. Des employés palestiniens de l'ONU, de Médecins du Monde ou de Médecins Sans Frontières ont déjà été touchés depuis le début de la guerre, mais c'est la première fois que des internationaux sont tués. Cette tragédie arrive aussi au moment où plus aucun frein ne semble contenir la violence grandissante de l'opération israélienne. L'armée menace de descendre sur Rafah. Elle a visé les intérêts iraniens à Damas. Elle a pulvérisé le plus grand hôpital de la bande de Gaza. Et aujourd'hui, elle vise une ONG importante dans la distribution de nourriture au moment où le nord de la bande de Gaza est aux portes de la famine. World Central Kitchen agit sur 60 sites dans l'enclave. Et c'est elle qui a réussi à assouplir le blocus maritime israélien en faisant passer 2 navires humanitaires avec de la nourriture. Elle distribue des millions de repas sur la durée. Elle annonce qu'elle suspend ses opérations.
Vous l'avez mentionné, Étienne, la France condamne fermement la frappe israélienne qui a tué des travailleurs humanitaires à Gaza. Et les États-Unis, par la voix d'Anthony Blinken, réclament une enquête rapide et impartiale. Le secrétaire d'État américain est de passage en France pour évoquer les grandes crises internationales. Et il a donné cet après-midi une conférence conjointe avec son homologue français, Stéphane Séjourné. Vous avez suivi cette prise de parole, Nathanaël Charbonnier.
Les premiers mots du secrétaire d'État américain sont bien sûr allés aux victimes et à leurs familles. Anthony Blinken a exprimé ses condoléances pour les proches, pour les collègues, pour les familles des personnes décédées dans l'explosion de leur véhicule. Il a également demandé à Israël d'en faire davantage pour protéger les civils innocents qui meurent sous les bombes israéliennes. Mais surtout, il a demandé l'ouverture d'une enquête afin que toute la vérité soit connue dans cette affaire, en saluant le travail extraordinaire des ONG. Anthony Blinken. Les membres de cette ONG font un travail remarquable, courageux, jour après jour, et difficile pour s'assurer que les gens reçoivent une aide essentielle, à commencer par le plus important, à savoir la nourriture pour survivre. Ces gens sont des héros. Ils sont au cœur de l'action, pas éloignés du feu. Ils montrent le meilleur de ce que l'humanité peut faire. Ils doivent être protégés. Nous demandons au gouvernement à propos de cet incident spécifique une enquête rapide, documentée et impartiale pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Anthony Blinken qui demande une enquête et qui explique aussi le soutien américain à Israël. Un soutien qui s'inscrit dans des accords signés entre les deux pays et qui prévoit de protéger Israël en cas d'attaque, comme cela a été le cas le 7 octobre, ou encore comme cela est le cas avec les menaces iraniennes, libanaises du Hezbollah ou syrienne.
Anthony Blinken doit maintenant être reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée. Il se rend demain à Bruxelles pour une réunion de l'OTAN à l'occasion du 75e anniversaire de la création de l'Alliance Atlantique. Trois semaines après l'annonce de la démission du Premier ministre haïtien, le Conseil de transition n'a toujours pas été formé et l'insécurité est plus forte que jamais, alimentée par la violence des gangs. Selon l'Organisation internationale pour l'immigration, plus de 50 000 personnes ont fui la zone métropolitaine de Port-au-Prince depuis le 8 mars, principalement pour rejoindre les départements du Grand Sud qui accueillent déjà 116 000 déplacés ayant fui les mois passés. Passation de pouvoir au Sénégal. Après sa victoire éclatante au premier tour de l'élection présidentielle le 24 mars avec plus de 54% des voix, Bassirou Diomaye Faye vient d'être officiellement investi. Sorti de prison il y a moins de trois semaines, il succède à Macky Sall qui a dirigé le pays pendant 12 ans. Et pendant sa prestation de serment, il a bien fait comprendre qu'il comptait répondre au désir de changement et de rupture des électeurs. Écoutez-le.
Je suis conscient que les résultats sortis des urnes exprime un profond désir de changement systémique. À travers mon élection, le peuple sénégalais s'est engagé dans la voie de la construction d'un Sénégal juste, d'un Sénégal prospère, dans une Afrique en progrès. Sur le plan africain, l'ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous oblige à plus de solidarité. J'entends clairement la voix des élites décomplexées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté. Aux pays amis et aux partenaires, je réitère l'engagement et l'ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté, conforme aux aspirations de notre peuple dans un partenariat mutuellement gagnant.
Le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye au micro de Théa Olivier à Dakar. Depuis le 26 février, un mouvement pour obtenir plus de moyens pour l'école tente de se faire entendre en Seine-Saint-Denis. 12 villes du département sont passées aujourd'hui à la vitesse supérieure. Romainville, Montreuil, La Courneuve ou encore Pantin ont mis l'État en demeure d'appliquer le plan d'urgence pour l'éducation dans le département. S'appuyant sur un arrêté du Conseil d'État de 1985 sur le respect de la dignité de la personne humaine, chacune de ces villes a pris un arrêté ordonnant à l'État de payer 500 euros par jour jusqu'à ce qu'il mettre des moyens à la hauteur des besoins éducatifs. La préfecture peut maintenant soit s'exécuter, soit contester les arrêtés au tribunal administratif. À l'appel de plusieurs syndicats, des enseignants faisaient grève aujourd'hui et ont manifesté contre ce qu'ils qualifient de tri social. Ils s'opposent à la réforme du choc des savoirs, lancée en décembre par Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation, pour rehausser le niveau des élèves. L'une des mesures phares, l'instauration de groupes de niveau en 6e et 5e, ne passe décidément pas, comme en témoigne le reportage d'Hakim Kasmi à Paris.
On veut du fric pour l'école publique, on veut du fric.
Inès, professeure de français dans un collège du Val-d'Oise, en région parisienne. Pour elle, la mise en place des groupes de niveau risque de stigmatiser les élèves les plus en difficulté et de les décourager.
Le tri des élèves, c'est pas possible. D'un point de vue estime de soi, nous, on œuvre au quotidien dans nos classes pour que les élèves prennent confiance en eux. Et encore, on dit groupe de niveau, mais clairement, c'est des classes de niveau. Nous, dans notre établissement, le plus petit groupe sera à 15 élèves, mais ensuite, on passe tout de suite à des groupes de 27 élèves. Donc, en fait, c'est des classes.
Avec la réforme des groupes de niveau, les classes en tant que telles vont disparaître, puisque les élèves seront tous dispersés dans différentes classes. Résultat, les professeurs de français et de mathématiques, qui sont concernés au premier chef par la réforme, ne pourront plus mettre en place de projets culturels, par exemple, ce que regrette Linda, professeure de français à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France, d'autant que dans son collège REP, plus de la moitié des élèves sont issus de familles défavorisées.
Chaque année, quand je les emmène à la Comédie Française, ils me disent que c'est la première fois qu'ils prennent le métro, encore plus le soir, pour aller voir une pièce à la salle Richelieu. C'est juste un événement extraordinaire. Là, ça veut dire qu'on va les priver de ce genre d'événement si à la base, il est organisé par le professeur de français et de mathématiques. Eh bien, on trouve ça tellement triste.
Dans le cortège, il y a également des professeurs du premier degré. Eux aussi sont concernés par la réforme, car ce sont eux qui devront présélectionner les élèves qui arriveront en sixième. Ce que dénonce Samia, professeure remplaçante dans le Val-de-Marne.
Dans notre département, on a déjà des inspecteurs de circonscription qui demandent aux enseignants de CM2 de classer les élèves en fonction de critères dans le cadre de commissions avec le collège.
Enfin, preuve que les différents mouvements commencent à peser au niveau financier. Aujourd'hui, selon le ministère, il n'y avait que 15% de professeurs grévistes dans les collèges.
Hakim Kasmi avec les moyens techniques de Michael Simon. S'estimant victime d'un acharnement, Julien Bayou démissionne d'Europe Écologie Les Verts. L'ancien dirigeant écologiste s'était mis en retrait depuis une plainte déposée par son ex-compagne début mars pour violence psychologique. Il ne renonce pas à son mandat de député, Sophie Delpont, mais quitte le groupe parlementaire écologiste.
C'est par un mail adressé cette nuit à la direction de son parti que Julien Bayou a annoncé sa décision, comme le confirme la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, Cyrielle Chatelain, en conférence de presse.
Aujourd'hui, Julien Bayou ne fait plus partie du groupe écologiste à l'Assemblée nationale et plus globalement, il quitte la famille écologiste.
Les députés avaient refusé de le suspendre du groupe parlementaire, un choix très critiqué à l'intérieur du parti. Julien Bayou avait choisi de se mettre en retrait depuis, mais la pression était devenue très forte car des militants et des élus avaient lancé un appel à une grève militante dans la campagne des élections européennes, souligne Cyrielle Chatelain.
Ça a révélé effectivement un débat chez nous assez fort et que effectivement il y a une partie des militants qui ont décidé de dire bah non, pour nous, il n'est plus en conformité avec ce qu'on porte. Voilà. Et donc oui, ça, ils ont exprimé leur avis via un texte et via une grève militante. J'imagine que ça a dû peser dans sa décision, mais sa décision est entièrement la sienne.
Ce week-end, la direction du parti a voté la mise en place d'une enquête menée par une instance extérieure, un cabinet spécialiste des violences sexistes et sexuelles, après la plainte déposée pour violence psychologique par l'ex-compagne de Julien Bayou il y a 2 semaines. Et selon un mail interne que nous avons pu consulter, plusieurs nouveaux témoignages de comportements inadaptés étaient parvenus aux instances dirigeantes dans le même temps. Pour la députée écologiste Sandra Regol, cette démission n'est pas satisfaisante.
Parce que c'est aussi quelque part la facilité de s'extraire des processus qui auraient pu arriver à leur terme. Il y a une enquête en cours dans le parti, elle ne s'arrêtera pas, du moins je l'espère. Et là, eh bien, il s'extrait d'absolument tout.
Julien Bayou ne souhaite pas s'exprimer aujourd'hui et devient donc à ce jour député non inscrit à l'Assemblée nationale.
Sophie Delpont. Au procès de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg, les représentants du parquet national antiterroriste ont prononcé leur réquisition devant la cour d'assises spéciale de Paris. 4 hommes comparaissent pour leur rôle dans la fourniture d'armes à l'assaillant qui a causé la mort de 5 personnes et en a blessé 11 le 11 décembre 2018 avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Pendant plusieurs heures aujourd'hui, l'avocat général a tenté de démontrer qu'Audrey Mondjedi, le principal accusé, était bien au courant du projet terroriste de Chérif Chekat. Émilie Lipou.
Il ne pouvait pas ne pas savoir, a dit l'avocat général dans son très long réquisitoire. Audrey Mondjedi a été présent à tous les stades de préparation de l'attentat par Chérif Chekat. Il l'a véhiculé, il lui a cherché des armes létales comme une kalachnikov, une grenade. Ce ne sont pas des armes pour un braquage, contrairement à ce qu'il dit, a continué le procureur antiterroriste, citant des chiffres sur le duo. Plus de 3 appels et 2 SMS par jour en moyenne pendant des mois avant l'attentat. Il ne pouvait pas ne pas savoir qu'il était radicalisé, car Chérif Chekat en parlait ouvertement. Enfin, il y a le comportement d'Audrey Mondjedi le matin de l'attentat après la perquisition chez Chérif Chekat. Il sait que son ami est un fugitif radicalisé et il va lui chercher une dernière arme. Il comprend d'ailleurs immédiatement ce soir-là que celui qui tire dans Strasbourg est Chérif Chekat. Il savait, conclut l'avocat général, et pour toutes ces raisons, je vous demande de prononcer sa culpabilité.
Émilie Pou de France Bleu Alsace pour France Culture. En cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, la rédaction de France Culture a voulu voir comment la société vient en aide aux adultes autistes, qui seraient au moins 600 000 en France. Car pour les associations comme Autisme France, les adultes sont les grands oubliés de la stratégie nationale trouble du neurodéveloppement qui coordonne l'effort de l'État. Le logement, par exemple, est un véritable casse-tête pour les proches des autistes adultes. Développer le logement inclusif fait bien partie des grands axes de la politique nationale, mais il reste beaucoup à faire, Tarache Legel.
La stratégie nationale 2023-2027 veut multiplier les logements dits inclusifs. Imaginés en 2018 par la loi Élan, ils sont financés par les conseils départementaux et hébergent des personnes vulnérables. Chacun loge dans son appartement et des espaces communs sont confiés à un animateur socio-culturel. Daniel Langlois préside l'association Autisme France qui regroupe environ 10 000 familles et elle l'assure, ce dispositif est mal conçu.
Ça a été pensé pour le public mixte, personnes âgées, personnes handicapées. L'idée, c'était d'aider à vivre ensemble. C'est pour ça que le financement s'arrête à un animateur socioculturel.
Si louable que soit le projet d'habitat inclusif, il est trop inadapté.
C'est pas ça les besoins de base d'une personne. L'adulte autiste, lui, il a besoin qu'on l'aide à vivre dans son appartement, à gérer ses courses, concevoir ses repas, parce que souvent il ne sait pas faire. Après, si on a un traitement, ben, comment on fait attention de le respecter ? Voilà, il va avoir des besoins de ce type. Et comment on fait pour répondre à ce besoin ? L'animateur socioculturel qui est là pour 10 personnes, 15 personnes, bah, ne peut pas faire ce travail. Puis ce n'est pas son travail, c'est un autre diplôme. Puis ce n'est pas un éducateur.
Au départ, ces habitats inclusifs étaient subventionnés à 80% par la CNSA, la caisse qui gère la cinquième branche de la Sécurité sociale. Désormais, la moitié seulement du dispositif est financé, ce qui refroidit forcément les collectivités locales. Conséquence, il y a très peu de bénéficiaires. Ainsi, sur les 2300 familles qu'Autisme France a sondées cette année, plus de 500 espéraient un tel appartement autonome, mais dans les faits, seuls 31 adultes interrogés habitaient dans un logement dit inclusif.
Tara Schlegel, l'autisme touche entre 1 et 2% de la population générale. Le surréalisme a 100 ans. L'exposition Histoire de ne pas rire célèbre ce centenaire au musée Beaux-Arts à Bruxelles. Le mouvement surréaliste est né en France en 1924 avec le manifeste d'André Breton. À la même époque en Belgique, le poète Paul Nouget et deux amis fondaient la revue Correspondance pour y publier 26 tracts surréalistes. On connaît ce mouvement sous un prisme très masculin. On pense bien sûr à René Magritte. Et la contribution des femmes a été longtemps invisibilisée, Hélène Combis.
L'œuvre est éloquente. Elle est intitulée « Portrait des surréalistes » et date de 1929. On y voit 16 photomatons d'hommes aux yeux fermés. Aragon, Breton, Éluard, Magritte, Paul Nouget, Max Ernst ou encore Dali. Au centre, une femme nue est représentée avec ce commentaire « Je ne vois pas la femme cachée dans la forêt ». Qui, aujourd'hui, est capable de citer le nom d'une surréaliste cachée derrière ceux de ces géants ? À part les spécialistes ou les initiés. Pourtant, les femmes ont pris part à ce mouvement, en France et en Belgique, jusqu'aux États-Unis et au Mexique en passant par les pays de l'Est. Mais elles se sont illustrées plus tardivement et elles avaient une position ambivalente, comme l'explique la conservatrice Anne Gerhardts, commissaire adjointe de l'exposition à Beaux-Arts.
On était juste après la guerre mondiale, les femmes commençaient à travailler, commençaient à s'émanciper. Les surréalistes soutenaient tout ça. De l'autre côté, on doit dire aussi que les surréalistes trouvaient beaucoup de leur inspiration dans la littérature du 19e siècle. Mallarmé, Baudelaire ou Edgar Allan Poe, où on voyait une vision des femmes plutôt idéalisée, plutôt très éphémère. Et c'était très difficile, je crois, de lier ces deux visions très différentes, une fois des femmes réalistes dans le monde qui était en train de changer, et de l'autre côté, comme on voit dans L'amour fou de André Breton, cette vision d'une femme qui n'avait pas vraiment une identité.
Mais les femmes ne se laissent pas cantonner à ce rôle de muse muette. À l'aune de ce mouvement, elles cultivent leur indépendance, loin des cercles masculins, tout en émancipant leur palette. Jeanne Graverolle, par exemple, qui affirme qu'elle n'était pas une peintre surréaliste, mais une surréaliste qui peint, s'affranchit du genre de l'art floral dans les années 40 et le détourne pour faire passer des messages féministes. Tout comme Rachel Bass, qui s'empare aussi du sujet des inégalités salariales. Xavier Cannon est commissaire de l'exposition à Beaux-Arts.
La peinture de Rachel Bass, c'est une peinture assez violente. Hein. C'est une peinture qui est peinte au couteau avec des couleurs très contrastées. Enfin, on sent la rage de peintre. Et la femme qui est souvent représentée dans les tableaux de Jeanne Graverolle aussi, c'est une femme qui se libère, c'est une femme qui considère sa condition. Les deux femmes auraient pu mener une carrière de peintre mondain. Rachel Bass vendait très très bien avant la guerre. Après ça, c'était plus difficile à vendre, hein, et même compliqué. C'est tout à leur honneur d'avoir brisé avec cette façon de peindre qui était sans doute une façon plus séductrice et plus genrée en effet.
En France, la rigueur de la théorisation et le fait que tout gravite autour de la figure d'André Breton ne favorisent pas la visibilité des femmes surréalistes. D'ailleurs, à quelques exceptions près, comme le couple de photographes et autrices Claude Cahun et Suzanne Malherbe, la France a surtout retenu le nom d'artiste ayant partagé à un moment la vie de Breton, comme Léona Delcourt, sa fameuse Nadja, Jacqueline Lamba et Valentine Hugo. Xavier Cannon explique que le mouvement surréaliste belge pratiquait moins les exclusions, sans compter que si Magritte prenait beaucoup de place, le poète Paul Nouget, figure fondatrice du mouvement, tenait à rester dans l'ombre.
Il n'y a pas de manifeste du surréalisme en Belgique, par exemple. L'absence de théorisation effective du surréalisme en Belgique permettait sans doute beaucoup plus d'entrée, moins d'examens de passage auprès du grand chef.
De manière générale, les femmes artistes peinent à entrer dans la postérité. Après leur mort, elles disparaissent des institutions culturelles, du marché de l'art et des productions universitaires. Aujourd'hui, les galeries et musées qui les exposent ont donc un rôle majeur dans leur réhabilitation, car la mise en lumière des œuvres est directement liée à leur valeur sur le marché. Les choses évoluent. L'an dernier, un tableau de Jeanne Graverolle, Le Trait de Lumière, estimé à 55 000 euros, a été finalement adjugé à 600 000 euros.
Hélène Combi, c'est sur le site de France Culture. Vous pourrez en savoir plus sur les femmes surréalistes et avoir un aperçu de leurs œuvres dans l'info culturelle. En Bourgogne, Lyon et la Saône-et-Loire restent en vigilance rouge face aux niveaux exceptionnels de certaines rivières. La Côte d'Or, l'Aube et la Haute-Marne sont en vigilance orange pour crue. Demain, il faudra compter avec les averses sur les trois quarts nord du pays. Les éclaircies domineront dans le sud. Au lever du jour, le thermomètre affichera de 4 à 11 degrés. L'après-midi, il fera 14 à 17 sur la moitié nord, 17 à 23 au sud. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.